Sylvie Germain, on a évoqué la place du regard et on peut aussi maintenant parler de la place du regard dans l'Évangile, le regard de Jésus ou bien le regard des autres sur Jésus. Qu'est-ce qui a pu se passer entre ces échanges de regards ?
Je me dis toujours, j'aurais pas été meilleure que d'autres peut-être à l'époque, d'où mon grand tourment à l'égard de Judas, qui reste quand même un tourment, je crois, que tout chrétien devrait être très tourmenté et ressentir une pitié gigantesque pour Judas.
Mais il y a aussi l'échange de regards entre Pierre qui vient de renier voilà. Et Jésus.
J'allais parler de Pierre qui est vraiment une de mes grandes passions, parce que je trouve que c'est vraiment l'image la plus humaine. C'est celui qui est très souvent mentionné, et il passe son temps à partir, il est très passionné, Pierre. « Oh, je te suivrai, même si tout le monde te renie, moi je serai avec toi jusqu'au bout, etc. » Et sans arrêt, il trébuche. Il dit une chose magnifique, oui, tu es le Messie. Et puis après, il lui dit, ah non, non, tu vas pas faire ça. Et le Christ lui dit, arrière Satan. C'est étonnant la relation avec Pierre. Le simple regard qu'il pose sur des êtres, on imagine quand il va désigner Matthieu, par exemple. Mais est-ce qu'on aurait su, en ce qui me concerne, est-ce que j'aurais su répondre à un tel regard? Je pense que j'aurais été plutôt comme le jeune homme riche. Qui vient et puis qui se dit bah « Non, je ne veux rien lâcher » et qui part tout triste. Je pense que je suis plutôt du côté du jeune homme riche. Je n'ai pas cette immensité intérieure et cette générosité ou cette assez de vulnérabilité, je ne sais pas comment dire, pour être éblouie et totalement dépouillée par un seul regard. Parce qu'après, il faut assumer.
Est-ce que le regard a été quelque chose qui vous accompagne dans l'écriture de vos livres? Il y a des livres où vous parlez plus du regard?
Le thème du regard et du visage, oui, est très très important, mais dans la vie aussi, il y a ces moments parfois presque insoutenables, où la beauté fait violence, où la tendresse fait violence, quand on croise le regard de quelqu'un qui peut être qu'on connaît peu ou au contraire très proche, mais en général quand on se regarde les uns les autres, il y a toujours le jeu social, il y a le langage, il y a des formules. Et je pense toujours, vous savez, cette formule qu'ont les enfants, du moins en France, je pense que c'est valable partout, cette chansonnette « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette ». Et très rapidement, on rit parce qu'il y a une gêne. Je me dis, toutes les comptines, les chansons, les choses de l'enfance qui ont l'air comme ça, un peu sottes ou très très naïves en tout cas, ça va très loin si on s'arrête dessus, ça va très très profond et on sait très bien que si on se regarde en silence, sans plus rien autour, trop profondément comme ça, regard à regard, il y a un moment c'est insupportable, parce qu'il faut déjouer ce défi qui m'est fait, et c'est ça aussi qui est très beau, je reviens toujours au thème des petits-enfants qui peuvent vous regarder comme ça, et c'est ça qui est absolument troublant avec les enfants, c'est quand ils vous regardent, il n'y a encore rien qui vient s'interposer entre, il n'y a pas le surmoi, il n'y a pas les hontes, il n'y a rien de tel. Ils sont dans cette espèce vraiment d'innocence, d'inconscience totale, cette espèce de candeur qui nous désarçonne, mais parfois aussi avec les grands malades qui sont en fin de vie, qui ont déjà, disons, fait la traversée du miroir. Et avec les personnes très âgées, on voit bien dans le regard qu'il y a un dépouillement total. Alors c'est autre chose, bien sûr, que le regard de l'enfant, parce qu'il y a toute une vie derrière. Avec tout un désarroi, il y a tellement de choses derrière. Et en même temps, il n'y a plus de défense. On sent, moi j'ai pas les mots à poser dessus, c'est comme si ça nous empoignait le cœur en direct.
Qu'est-ce que vous avez découvert chez Etil Soum? Pourquoi vous avez écrit sur Etil Soum et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Est-ce que c'est une compagne pour vous?
Je l'ai découverte grâce à une note dans un livre. Je dis toujours, les notes, c'est très important. Et il y a des perles à trouver dans les notes qui sont en bas de page des livres. C'était le livre de Hans Jonas, à propos d'Auschwitz. Comment parler de Dieu après Auschwitz? Sujet qui me tourmente depuis très très longtemps. Et un jour, j'ai acheté, c'est un tout petit livre, c'était aux éditions Rivage, je crois. Je lis ce livre, qui est en fait une conférence de Hans Jonas. Et à un moment, il y avait une note. Et dans une des notes, je vois mentionné Etil Soum. Ça m'a beaucoup intriguée. Je suis allée dans une librairie. Tout de suite, j'ai acheté le livre qui s'appelait Une vie bouleversée en français. C'était que des extraits. Et j'ai été très très étonnée par ce livre, très très marqué. Au début, on a un petit peu de mal à rentrer dedans parce que la femme est très excessive et tout. Et puis, il y a des passages mais qui sont éblouissants, qui sont consternants. À l'évidence, cette femme, dans un temps très bref, a connu une expérience spirituelle d'une puissance hors du commun. Et dans un vocabulaire, dans des expressions très contemporaines, donc qui pouvaient vraiment nous toucher, ce qui fait qu'elle touche énormément de gens, effectivement. « Récemment, on a édité son journal plus intégralement. Et j'ai été très, très frappée, mais comme beaucoup de personnes, comme des milliers de personnes, je pense, par l'expérience spirituelle de cette femme qui est hors du commun et qui nous fait nous poser beaucoup, beaucoup de questions. En plus, elle est d'autant plus étonnante, et je pense qu'elle peut parler à d'autant plus de gens, qu'elle est hors Église. Elle est juive et morte en tant que juive, mais elle avait une connaissance qui, à mon avis, pas très approfondie du judaïsme. Mais comme elle était dans un pays de vieille culture chrétienne, elle est aussi marquée par une forme de culture chrétienne au moins ambiante, à défaut d'être très approfondie. Elle a des passions pour Tolstoï, pour Dostoïevski, pour Rilke, donc fatalement, le christianisme se diffuse à travers tout ça. Et sa rencontre avec cet homme, Speer, qui l'a aussi introduite à beaucoup de connaissances, on voit qu'elle mentionne parfois Saint-Augustin, elle mentionne l'évangile selon saint Matthieu, etc. Peu importe qu'elle n'ait pas une connaissance très approfondie, on sent que les choses essentielles des évangiles rentraient en résonance en elle. Et ce qu'elle en a fait est extraordinaire. Voilà, je crois qu'elle est allée très vite droit à l'essentiel. Et bien sûr, donc, toutes ces personnes qui vont comme ça droit à l'essentiel, quand je dis droit, fût-ce en zigzagant beaucoup, peu importe, mais qui vont quand même très droit, ou vraiment ce qui est le principal, ont beaucoup à nous apporter.
Vous, par exemple, si vous aviez un aspect d'Etil Ilsoum qui vous a vraiment nourri, qui vous a porté.
Et quand elle dit, par exemple, ces phrases étonnantes, elle voit ce temps de désarroi et de déshumanisation absolument atroce quand elle va au camp de Westerbork, qui est quand même un avant-mouroir, avant Sobibor et Auschwitz, et qu'elle dit, qu'elle constate, bon, là, que Dieu est comme perdu et qu'elle comprend. Soudain, dans une espèce d'intuition qu'elle ne va pas faire un travail de philosophe ou de théologien, elle n'est pas du tout comme ça, Etil Ilsoum. Non, elle va droit, comme je disais, à l'essentiel. Elle dit, bon, il y a urgence. Dieu est perdu. Il n'y a plus de maison pour Dieu. Dieu, faute de mieux, moi, je vais essayer de te recevoir en moi. Et comme elle dit avec ses formules tout à fait étonnantes, je ne prétends pas que tu seras toujours très bien chez moi. C'est très encombré, c'est un peu poussiéreux. Et en dérangement, il y a le chaos en moi. Mais bon, faute de mieux, je t'offre un abri. Et c'est tout à fait ça. S'il y a des moments quand il y a des intenses moments de détresse dans l'humanité sur cette terre, il y a des gens comme elle qui disent bon, il n'y a plus de place pour Dieu, il semblerait. On l'a oublié. Il est massacré avec les autres puisque Dieu et l'humain. C'est quand même, sinon ça ne nous intéresserait pas tellement. Le véritable temple de Dieu, c'est au lieu de s'entretuer pour des lieux dits saints et on s'entretue, c'est aberrant. Quand on voit ce fameux passage qui est une merveille, comme tant d'autres dans les évangiles, quand le Christ dit à la Samaritaine qui lui demande, mais alors où doit-on aller adorer Dieu? Il lui dit, viens un temps, le temps est venu, où il ne s'agit plus d'aller adorer Dieu dans tel ou tel lieu, mais en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans l'esprit, le cœur de l'homme. Donc chaque personne, quelle qu'elle soit, est une église, est un temple, une synagogue, une mosquée, tout ce qu'on voudra, voilà. C'est pas des lieux terrestres. Et Etil Ilsoum, elle s'est pas encombrée d'aller lire tous les textes, elle, par intuition, elle le comprend. Et elle dit, écoute, s'il n'y a plus personne pour te recevoir, moi je te reçois. Et puis mon travail, ça va consister à aller essayer de te trouver des places chez les autres, de te trouver... Et je me dis, mais elle est revenue à l'essentiel, la fameuse tente du rendez-vous. Et je trouve ça magnifique, cette tente du rendez-vous dans le Premier Testament. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on est d'autre que des tentes du rendez-vous? Sauf qu'on oublie souvent de déplier la tente et de faire un peu le vide dans la tente, quoi. Voilà, donc c'est des choses comme ça chez Etil Ilsoum, dans son vocabulaire très simple, très direct, parfois un peu cru, un peu rude, parce que la ligne d'après, elle va dire « j'ai mal aux pieds, j'ai faim », ou voilà, elle va revenir au corps, et c'est ça qui la rend tellement humaine. C'est une vraie mystique, en un sens, que les vrais mystiques, ils ont vraiment les deux pieds sur la terre. Elle a les deux pieds dans la boue, elle a mal aux pieds, elle a des ampoules aux pieds, elle le dit, elle a faim, elle a froid, elle a ci, elle a ça, elle a toujours mal quelque part. Et en même temps, elle dit, comme tente du rendez-vous, elle n'a rien d'autre de mieux à proposer, mais elle le propose. Et pour moi, ça rejoint complètement un autre évangile magnifique, parabole extraordinaire, qui est celle du bon samaritain. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Christ, à travers cette parabole? C'est qu'à ce moment-là, Dieu gît dans l'inconnu qui a été frappé par des brigands de passage qui ne savent pas ce qu'ils ont fait au sens spirituel, pas plus que ceux qui ont tué le Christ, comme il le dit sur la croix, et pas plus qu'on ne sait le mal qu'on fait quand on commet le mal. Même si on a tout préparé, même un crime avec préméditation, génialement, entre guillemets, préparé, il n'empêche, la personne qui fait ça sur un plan spirituel ne sait pas ce qu'elle fait, ne sait pas ce qu'elle engage de dramatique aussi pour elle. Ça, les gens ont du mal souvent à comprendre. Et je trouve que cette parabole du bon samaritain, quelqu'un bien comme Etil Soum, quand dans son vocabulaire simple, direct, cru, elle dit voilà, moi, Dieu, faute de mieux, voilà, je te fais un petit coin en moi. Ça rejoint pour moi la parabole du Mont Samaritain. Et c'est ça qui touche, je crois, tellement de personnes. C'est que dans son vocabulaire beaucoup plus contemporain pour nous, et dans une expérience réelle, dramatique, tragique, qu'elle a vraiment vécue jusqu'au bout, elle nous retranscrit des choses dites essentielles par le Christ dans les évangiles.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Tout est dit déjà, je crois, dans les évangiles, donc on ne peut que souhaiter que toutes les personnes rouvrent ces livres, rouvrent ces textes, se penchent comme vraiment se penchent vers de l'eau.